Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin.
Épisode numéro 101. Dominique Gouillard, Polar, Polar. Vous avez dit Polar ? Chers amis, bonjour. Ah, la plume vous dérange. Mais c'est très bien. Déjà en 11e, c'est-à-dire en première année de primaire, pour le jour de la fête des mères, la maîtresse vous a dit « Prenez une feuille et écrivez un joli poème ». Et vous avez écrit, avec quelques petites fautes, toutes mignonnes, à votre maman « J'aime deux choses, toi et la rose. La rose pour un jour et toi pour toujours. » Bonjour Dominique Gouillard.
Bonjour Ambroise Perrin.
Et puis ensuite, vous aviez des rédactions à faire à la maison, par exemple « La forêt en automne ». Et l'instituteur vous demandait de faire preuve d'imagination. Et vous aviez cueilli le dimanche dans la forêt, le dimanche après-midi, des champignons pour faire une belle omelette le soir. Et maintenant, toute la famille est au paradis. Mmh. Alors comment on appelle ces champignons, c'est les amanites phalloïdes, c'est ça ?
Non, mais ce qui est amusant, c'est que vous tapez tout à fait juste, parce que quand j'étais toute petite, ma mère avait un atelier de reliure d'art et elle m'a appris à lire très tôt. Donc j'ai su lire et écrire très tôt, mais elle me donnait des petites feuilles de papier et elle m'en faisait des petits carnets. Et donc très vite, je me suis amusée à écrire des petites histoires, enfin extrêmement simplistes. Un enfant de 6 ans, 7 ans fait des choses assez simples.
Mais quand même, assassiner toute la famille avec des champignons.
Non, mais j'ai pas assassiné. Et alors je me rappelle encore, mais là c'était un tout petit peu plus tard... Quand j'étais au collège, j'ai eu à faire une rédaction, justement, visite en forêt et champignons. Et alors, j'avais dans le dictionnaire, chercher des tas de champignons pour faire une belle
Et donc, les champignons mortels, que l'on peut mettre dans un roman policier.
Disons, je ne sais pas encore si j'avais
Est-ce
cette
que vous
idée,
sauriez,
mais oh, j'ai
vous
peut-être
sauriez,
oublié.
Vous sauriez reconnaître les amanites phalloïdes ?
Je vois un peu comment c'est, oui, effectivement, parce que j'ai regardé dans des dictionnaires.
Ah oui. Alors, je poursuis votre carrière. Vous êtes championne de dissertation en terminale. Vous êtes la meilleure à l'école normale rue d'Ulm. Vous faites du latin, du grec ancien. Vous adorez la littérature. Vous connaissez toutes les histoires de la mythologie grecque par cœur. Vous avez plein de diplômes prestigieux en lettres classiques. Ta-da-ta-ta-ta. Vous êtes agrégée. Les palmes académiques, déjà
Non,
pas
sûrement
encore.
Pas. J'ai jamais
encore.
Demandé ce genre de choses.
Et alors, vous ne courez pas après la croix d'honneur comme le pharmacien Homé de Madame Bovary.
Non, absolument pas. Et merci pour ce tableau vraiment très flatteur. Il ne faut quand même pas exagérer.
Ah, mais je me suis renseigné. Hein. Voilà. Et alors, aujourd'hui, apothéose, vous êtes une auteure reconnue de romans policiers, des polars. Alors dites-moi, Dominique Gouillard, alors je connais la réponse, mais je vous pose la question. Les polars, les romans policiers, les enquêtes Renan, ce n'est pas un genre mineur ?
Non, au contraire, c'est le genre majeur de la littérature de notre époque.
Ah, vraiment ?
Vraiment, oui. Vraiment, parce que autrefois, on écrivait pour un public plus restreint des romans psychologiques. Bon, alors, il y a eu de magnifiques romans psychologiques au 19e siècle, ça s'est poursuivi au 20e siècle, et moi je trouve que le genre s'essouffle, et à la place, on a des romans plus populaires, et c'est pas parce que c'est populaire que c'est mal écrit, que c'est pas
oui, bien
intéressant.
Sûr. Hein. Zola était populaire,
exactement.
Balzac... Voilà. Oui, mais quand même, bon, un polar, ça se lit en 2 ou 3 heures, je pense à un des romans, alors je le cite souvent parce que je dis roman, Les Bienveillantes de Jonathan Little, 950 pages. Bon, j'ai mis plus qu'un mois pour le lire. Bon, j'avais d'autres choses à lire en même temps, mais vos livres, on les lit en deux ou trois fois, quoi. Et puis, on s'énerve un peu parce qu'on devine à l'avance qui est l'assassin, peut-être pas, mais quand même. Parce que vous avez quand même écrit des livres scolaires sérieux, hein. Cinna, Horace, Bérénice, et quand vous étiez...
j'ai fait des petits classiques Larousse, à l'époque où j'avais une famille, où il fallait gagner de l'argent, et j'ai fait un peu de parascolaire et de scolaire alimentaire, effectivement, mais c'est pas sans intérêt.
Alors les polars, c'est juste pour le pied?
Non, le polar, c'est pour le plaisir.
Oui, c'est ça.
Mais pour ce qui est de la longueur, si vous regardez ces volumes, ce sont parmi les plus longs de la collection. Et beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient passé le week-end entier à en lire un, parce qu'ils avaient commencé, ils avaient trouvé ça tellement bien qu'ils avaient continué le lendemain et puis ils en avaient passé une partie de la nuit.
On peut sauter un peu les pages et on lit.
Je pense pas.
Et on lit le dernier chapitre pour savoir.
Non. Moi, je pense pas. Je pense que. Moi, ce que je fais, c'est que j'accorde vraiment la primauté à l'intrigue. Il faut que l'intrigue soit passionnante.
Est-ce que vous savez à l'avance qui va être l'assassin ?
Oui, absolument. Je dirais que c'est une... Alors, il se peut que certains auteurs écrivent un peu à l'aventure, mais je trouve que c'est une coquetterie de la part d'un certain nombre d'auteurs de dire « Ah oui, moi, finalement, je ne sais pas vraiment, j'hésite. » Oui, je crois que pour que l'intrigue d'un polar soit bien mise en place, il faut, dès le départ, savoir il y a un certain nombre de cases à ajouter d'une manière rigoureuse. Il y a des tas d'indices qu'on va fournir au lecteur, qui ne comprendra pas.
Alors, expliquez-moi un peu comment vous faites un polar. On savait que Simenon, c'est un maître pour vous
C'est un des maîtres, il y a beaucoup de maîtres.
Beaucoup de maîtres.
Et le polar peut se décliner de manière plurielle.
Simenon, il lui fallait une grande enveloppe jaune sur laquelle il mettait le plan, et puis il se lançait, il savait qu'il devait travailler que 15 jours, pas plus, et il sortait à Maigret. Et tout, vous faites comment?
Mais Simenon avait tout à fait raison. Disons que moi, pour écrire un livre, il faut d'abord que je réfléchisse à la fois sur l'intrigue et sur les personnages. Et ce sont des choses qui vont venir...
Et vous faites une liste ?
Attendez. Oui, bien sûr. Mais ça vient très progressivement, peu à peu, je prends conscience... de mes personnages, et puis parfois j'en vois certains, mais ils cadrent pas avec l'intrigue, et puis peu à peu l'intrigue se met en place, et il faut que vraiment ces personnages me semblent vivants.
Alors je lève la main là, madame, parce que je vois la prof là qui n'aime pas être interrompue et tout.
Quand
vous étiez à Sciences Po, vous avez été tenté par la politique.
Oui, tout à fait.
J'ai lu ça. Donc, racontez, vous vouliez être ministre de l'éducation?
Non, pas du tout.
Ou de la culture? Ça change souvent, là. Il y a des places de libre, parfois.
Quand j'étais à Normale Sup, on nous poussait, mais aussi bien les littéraires que les scientifiques, à faire... un maximum d'études dans des branches les plus variées. Avec l'idée que ça créera des esprits plus complets.
Voilà. Mais c'est une bonne idée, non ?
Ah, bien sûr. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que les écoles de commerce maintenant ont des filières littéraires, parce qu'ils se rendent compte que les qualités littéraires sont importantes et qu'il n'y a pas que les maths.
Est-ce que pour être un élu de la République, il ne faudrait pas avoir fait ce type d'études, entre guillemets ?
Non, pas du tout. Je crois que les...
Ça ne serait pas démocratique ?
Non. Et puis surtout, je pense qu'il y a une vertu politique qui ne s'apprend pas dans les livres.
S'apprend le samedi matin au marché, boulevard de la Marne, en distribuant des tracts ?
Oui, en partie, quand même. Oui, certainement. On a eu d'excellents ministres qui étaient garagistes ou des choses comme ça.
Bérégovois, hein, oui.
Oui, pas seulement. Oui. Et il faut avoir un esprit clair et finalement être proche du peuple. Et un des problèmes des études qui sont poussées trop loin... c'est que on oublie le sol. On aimerait bien que nos ministres, enfin certains vont dans les marchés et parlent avec des gens, mais plus on monte au sommet de l'État, plus franchement on a l'impression qu'ils voient plus la réalité.
Voilà. Alors à Strasbourg, il y a un cercle holmésien, donc Sherlock Holmes. Ce sont vos amis. Et c'est cela le déclencheur pour vous, pour vous lancer dans le roman policier ?
Non, pas du tout. Il y a longtemps que j'écris des choses, mais c'était un peu des ballons d'essai que j'ai gardé comme ça pour moi. Et c'est effectivement... Alors, mais après, quand j'ai fréquenté ce cercle holmésien et sa revue dans laquelle j'ai publié quelques nouvelles...
Ça s'appelle L'Écrou.
Le carnet d'écrou.
Le carnet d'écrou.
Le carnet d'écrou.
Comme dans une prison, quoi.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais.
Et à la fin du polar, ils sont morts ou ils sont en prison.
Et chaque membre de l'association est censé être un ancien tolard, quoi. C'est... Alors, on rigole, quoi.
Ah, d'accord. Oui, hein. Oui, parce qu'il ne faut jamais se prendre au sérieux, voilà.
C'est une membre de l'association qui m'a dit, mais je sais que tu as écrit des choses, tu devrais la proposer ce que tu as fait
à un éditeur
et voilà. Notamment...
Justement, vous avez publié 4 titres, je les donne, c'est Échec à la reine, Le monstre vert de Strasbourg, L'or du Rhin et Une ombre au tableau. Est-ce que vous avez en tête 3, 4, 5, 10 titres suivants ? Est-ce que vous savez ce que vous allez écrire ? Vous en avez déjà un ou deux d'avance, j'imagine.
Oui, j'en ai un d'avance. Et puis, en ce moment, j'ai des personnages et j'ai une intrigue flottante.
Flottante.
Oui, que j'ai besoin de préciser en me demandant
vous
si...
Vous vous réveillez la nuit en disant « Ouh là là, mais oui, bien sûr, c'est l'inspecteur qui est en train de mener l'enquête, qui est en fait l'assassin, comme Conan Doyle, je crois. »
Oui, mais je crois que tous les auteurs raisonnent comme ça.
Oui,
on écrit en partie pendant la nuit dans sa tête, oui, ou plutôt en s'endormant et en se réveillant, parce qu'on n'a pas forcément envie de passer des heures à rester éveillé pendant la nuit.
Ben justement, c'est ça l'une des grandes qualités, hein, c'est de se réveiller, de prendre le carnet à côté du réveil et d'écrire quelques mots, même dans le noir, pour ne réveiller personne. Mais alors, comment écrit-on un roman policier ? Mais d'abord, je crois que cela va intéresser tous nos auditeurs. On est très nombreux à se dire « Tiens, moi aussi je vais écrire un roman ou ma vie ou la vie si extraordinaire de mon grand-père. » Et souvent, cela capote.
Voilà.
Ça ne marche pas. Non pas parce que vous n'avez rien à dire et que vous n'avez pas de talent, mais parce qu'il vous manque une qualité essentielle, c'est...
L'esprit de synthèse.
Non. La persévérance.
Oh oui, enfin quand même, les deux.
Se lever à 5 heures du matin pour écrire 3 pages avant journée.
Non, c'est pas comme ça que ça marche.
Ah non, c'est un mythe, ça.
Non. Alors, Ambroise, vous ne m'avez pas laissé répondre à votre question tout à l'heure. C'est-à-dire que, est-ce que je fais comme Simenon et que je fais un plan ? Oui, bien sûr, je fais un plan. À partir du moment où mes personnages m'apparaissent, mais vraiment comme des personnes physiques, à partir du moment où j'ai une bonne idée de mon intrigue, eh bien, je vais préciser l'intrigue en gros chapitre par chapitre et ça va faire 2-3 pages sur ordinateur et ça se modifie parce que parfois on se rend compte que chapitre qu'on croyait très intéressant ne vaut rien.
Est-ce qu'il y a des contraintes précises, un nombre de chapitres, un nombre de...
Non, pas du tout. Il y a des auteurs qui vont faire des chapitres très longs, il y en a d'autres qui ont une écriture un peu... je dirais pauvres, et qui vont faire des tout petits chapitres parce que ça va gagner en longueur.
Ou alors parce qu'il y a un rebondissement à la fin de chaque chapitre.
C'est possible aussi.
Comme dans les bandes dessinées, par
oui,
exemple.
Oui, tout à fait. Et moi, j'aime bien avoir des chapitres d'une quinzaine de pages, à peu près. Mm-hmm. Est-ce que c'est suffisamment long pour être défini autour d'une, d'une sorte de thématique ou d'une partie de journée?
Et est-ce qu'ensuite vous revenez sur les premiers chapitres quand vous êtes là? Parce qu'il y a des auteurs qui publient leurs chapitres au fur et à mesure dans une revue ou dans un journal, c'est... donc ils ne peuvent plus faire marche arrière. Alphonse Allais, par exemple, qui écrivait tous les jours, c'était publié, puis à la fin, il fallait quand même qu'il retombe un peu sur ses pieds.
Tout à fait, mais ça, c'est une approche journalistique avec une contrainte qui est une obligation pour eux de publier. Et d'autre part, on peut dire que ce sont des gens qui ont beaucoup de métiers. Bon, donc ils savent se corriger au fur et à mesure, et puis bon, si y a quelque chose qui ne va pas, ils tâcheront de l'arranger ensuite. Mais moi j'écris relativement facilement, quand j'écris c'est dans la journée et pas la nuit, c'est en gros 2-3 pages qui vont correspondre à 2-3 pages une fois publiées, mais une fois j'écris ce qui me vient à l'esprit. Et ensuite, je reprends un certain nombre de fois. Voyez, vous avez un chapitre de 15 pages, ça va faire en gros en 5 jours. Mais chaque fois que j'ai écrit 3 pages, le lendemain, je les reverrai et je continuerai, et ainsi de suite. Et quand j'aurai fini le chapitre...
Est-ce que vous arrivez à jeter des choses?
Oui, bien sûr, il faut absolument...
C'est un crève-cœur.
Oui. Non.
Mais alors, alors, est-ce que vous avez des personnages qui sont les mêmes d'un roman à l'autre, même si vous changez le nom? Non, vous gardez les mêmes noms.
Qu'une fois que les enquêtes Rhénane m'ont fait la gentillesse et l'honneur de publier mon premier roman, je me suis dit, finalement, ces personnages, il y en a qui sont sympathiques et qui sont intéressants, donc je vais les réutiliser. Et aussitôt, j'ai écrit le second. Lorsqu'on a des enquêteurs, on peut faire en sorte que ce soit des flics ou alors des privés. Bon, moi, je n'ai pas fait de privé. Il y a un sympathique commandant de police avec 2-3 personnages qui l'entourent.
Qui ont des noms alsaciens et d'autres qui ont des noms italiens.
Voilà.
Mais alors, vos sympathiques enquêteurs, question très importante, est-ce qu'ils aiment la confiture de framboise?
Je pourrais leur poser la question.
Et la tarte au fromage, bien sûr.
Bien sûr, la célèbre tarte au fromage. Il faut également ajouter que j'ai introduit aussi une jeune journaliste qui a un copain également journaliste. Cette association de deux journalistes et de quelques flics correspond tout à fait avec ce qui se passe dans la réalité. Parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des journalistes, de discuter également avec certains policiers. Ce que je raconte, c'est que je m'efforce de faire en sorte que ça soit fidèle à la réalité.
Mais il y a quand même des trucs d'écriture dans ces cas-là. Vous avez des petites, des combines pour pouvoir retomber sur vos pieds, sur les fameuses 15 pages, non?
Disons que c'est une question de métier. Ça vient de manière relativement naturelle.
De façon naturelle...
On sait très bien que la nature n'est jamais...
Un petit exercice. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez raconter l'intrigue de Échec à la reine?
Échec à la reine, oui. Ce sont 3 personnages qui vont en observer 3 autres. On peut déjà dire ça.
Voilà, oui.
Puisqu'on a un triangle avec le mari plus âgé, qui est l'oncle en fait, qui a épousé une femme plus jeune et qui a un neveu.
Et qui n'en fait qu'une bouchée. Et c'est pour ça que... Voilà. Il y a des bouchers à la reine. Et alors, le monstre vert de Strasbourg, alors c'est pas le rayon vert?
Non, pas du tout. Et je me rappelle également un photographe qui, de la ville, parce qu'il y avait eu un article sur mon livre dans le journal de la ville, et il m'avait demandé avec inquiétude, mais le monstre vert, vous n'avez rien contre...
Contre la municipalité.
Alors que je leur ai dit, non, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'est au début du livre, un petit garçon, pendant la nuit, est réveillé et il aperçoit une espèce de chose, un être vivant qu'il prend pour un monstre vert. Et en fait, c'est l'assassin de son grand-père.
Voilà. Envers et contre tous.
N'est-ce pas ?
Voilà, c'est voilà. Ça et tout. Alors, troisième roman, policier, hein, ouais. L'or du Rhin. Alors là, on pense à Wagner, on pense à la Lorelai, on pense
bien sûr.
À Laurel et Hardy aussi. Hein,
non, quand même pas.
Non. L'or du Rhin, ça raconte... C'est vraiment un titre très, très alsacien, enfin, ça fait alsatique, ça fait rhénan en tout cas.
Ah voilà, c'est un roman qui est tout à fait rhénan, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir à introduire de la grande musique dans un roman policier populaire. Voilà. Parce qu'il est effectivement question de ce premier opéra de la trilogie, du Ring de Richard Wagner, il y a des implications par rapport au roman. Et c'est une histoire de trésor. C'est une histoire assez complexe dans la mesure où il y a au moins deux intrigues qui s'entremêlent. Et les lecteurs ont apparemment beaucoup apprécié cette manière dont les deux intrigues étaient entrelacées.
Voilà, on pense aussi à Victor Hugo, hein, qui a beaucoup écrit sur le Rhin.
Absolument.
Hein, voilà, et puis d'autres, Gérard de Nerval... qui avait accompagné, c'était
Dumas.
Hein.
Oui, en fait, tous ces auteurs romantiques, Dumas, Hugo, Nerval et encore d'autres, et puis Théophile Gauthier aussi, ils se connaissaient très très bien et ils ont été fascinés par les littératures étrangères, d'une part par Shakespeare, mais également par tout ce qui se faisait en Allemagne. Pour eux, ça a été une découverte et Victor Hugo a beaucoup écrit, d'ailleurs en repompant ce que faisaient ses amis et collègues. Mais enfin, il a beaucoup écrit sur le Rhin, l'Alsace et l'Allemagne.
Voilà, alors, quatrième roman, et après je vous demanderai le titre du cinquième, à moins qu'il soit top secret.
Disons que
c'est
pas ça, mais ça me gênerait par rapport à mon éditrice parce qu'elle n'a pas, pour l'instant...
C'est elle qui choisit les titres ou c'est vous ?
Alors, c'est le directeur de collection la plupart du temps qui le choisit.
Ah oui, mais vous proposez quelque chose.
Je propose quelque chose, mais par exemple...
Et vous n'êtes pas frustré quand on ne le prend pas
Ça dépend, mais disons, l'or du Rhin, c'était très bien trouvé. Moi, c'est un de ceux que j'avais proposé, mais je n'osais pas le faire parce que je me rappelle avoir discuté...
Tellement... connu, enfin...
C'est
comme...
tellement connu. Et je me rappelle avoir dit, mais vraiment, est-ce que c'est quand même Wagner ? Est-ce que je peux me l'approprier ? Mais oui, tu vas voir.
Voilà.
Et puis, pareil, le monstre vert s'appelait
alors
beaucoup.
Alors, vous pourriez mettre un petit bandeau rouge, ce n'est pas une biographie de Wagner.
Oui, non, oui, mais je crois
ça,
que
ça
personne...
Ça ferait vendre ?
Non, je crois que...
Alors, quatrième titre, une ombre au tableau. Alors là, on revient au tableau noir de la prof, là. Mais ça parle d'autre chose. Elle va prendre le livre et me taper sur la tête avec. De quoi parle une ombre au tableau ? Je le sais parce que je l'ai lu. Mais dites-moi.
Voilà. Alors, la page de couverture montre très bien un tableau où est représenté le Fleckenstein. Voilà. Donc, il va être question d'artiste et le roman, on peut le dire, hein, ça ne déflore absolument pas l'histoire puisque c'est le début, ça commence par le meurtre d'un peintre. Voilà. Et puis, on va se rendre compte qu'on a plusieurs artistes, peintres, musiciens, il y a aussi un sculpteur, il y a deux écrivains, enfin, et tout ce petit monde est un petit monde qui...
D'entre soi.
Oui, mais qui s'entretue un peu.
Voilà. Oui, on apprend au cours de route.
Et comme moi, je suis issue d'une famille de musiciens, d'artistes, j'ai vu les dessous du monde artistique. C'est pas toujours très drôle. Et ce qui m'a intéressée, c'est de réfléchir sur les rapports de l'art avec la vérité et la fausseté. Finalement, est-ce que l'art utilise des moyens faux pour dire la vérité ? Est-ce que l'art est plus vrai ou plus faux que la réalité ?
Mon Dieu, on retombe sur Flaubert, là.
Oui, bien sûr. Voilà. Et je pense, Ambroise, que c'est une thématique qui vous intéresse beaucoup, puisque vous passez votre temps à écrire sur le vrai et le faux.
Ben alors, ça me donne envie d'écrire un roman policier. Alors, j'ai déjà le titre, mais je ne voudrais pas qu'on le change. Ça va s'appeler « 5 euros heureux ».
5 euros heureux.
Hein, c'est une belle allitération.
Ah, oui, mais c'est
donc,
important.
Voilà, je donne déjà le nom de l'assassin avant même d'avoir écrit le livre. Merci Dominique Gouillard. C'était l'épisode numéro 101 de Vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg. Dominique Gouillard, Polar, vous avez dit Polar. La semaine prochaine, nous ferons un petit tour dans le monde merveilleux des conférences avec André Hizel. Vous l'avez bien connu tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi, à la technique Thomas Marinelli. Et mon nom est Pan, coup de feu. Ah, je suis l'assassin qui se suicide. Suspense. Ambroise Perrin.